Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens que lorsque j'étais au séminaire, deuxième et troisième dimanche de carême, c'était le moment le plus critique. Parce que Pâques est encore très très loin, puis on a déjà eu le temps de se fatiguer. Donc voilà, c'est le moment où il faut se dire, allez, on y va, on continue, on se lasse pas. Et alors, pour le deuxième dimanche, chaque année, nous avons le récit de la Transfiguration. Ce beau récit de la Transfiguration. Et peut-être que nous pouvons en retirer au moins deux choses. D'abord, il y a les apôtres qui voient. Ils voient Jésus. Et alors, Benoît XVI disait ça. Il disait, « Aussi Jésus emmène-t-il avec lui sur la montagne trois d'entre eux, et il révèle sa gloire divine, splendeur de vérité et d'amour. Jésus veut que cette lumière puisse éclairer leur cœur quand ils traverseront l'obscurité profonde de sa passion et de sa mort, quand le scandale de la croix sera pour eux insupportable. Dieu est lumière, et Jésus veut offrir à ses amis les plus intimes l'expérience de cette lumière qui demeure en lui. Ainsi, après cet événement, il sera en eux cette lumière intérieure qui saura les protéger de l'assaut des ténèbres. Même dans la nuit la plus sombre, Jésus est une lampe qui ne s'éteint jamais. Saint Augustin résume ce mystère en utilisant cette belle expression. Ce qu'est ce soleil pour les yeux de la chair, Jésus l'est pour les yeux du cœur. Voilà, tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes sur le chemin de la passion avec Jésus. Parce que de toute façon, quand on est sur terre, à un moment ou à un autre, on rencontre la croix. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas le choix. Et tous, on peut légitimement, comme Jésus, être à la fois déterminé en se disant à certains moments, « Oui, je veux y aller, j'ai le courage. » Et à d'autres moments, être au jardin de Gethsémani et se dire « S'il te plaît, que ça s'éloigne de moi. » Et parfois même, on est sur la croix et on dit avec Jésus « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est normal. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il n'y a pas des martyrs qui se sont regardés être martyrisés en se disant, ça y est, je suis dedans. Au moment où on est martyrisé, on est martyrisé, hein, pour de vrai. Et il y a tous les sentiments que Jésus a eu sur la croix, on y participe d'une manière ou d'une autre. Alors oui, il y a Saint-Étienne qui contemple le ciel, mais c'est une grâce particulière qui lui est accordée. Tous les martyrs ne sont pas allés au martyr avec cette vision-là. Par exemple, Saint Ignace d'Antioche, l'un des premiers martyrs, dit aux chrétiens, pour l'instant, j'ai ce courage-là, surtout, si je change de décision, confortez-moi. Si au moment de l'épreuve, au moment où je serai avec les lions, je n'ai plus ce courage, confortez-moi. Soyez là. Alors, une question que l'on peut se poser, du coup, en lien avec ça, c'est celle que disait le pape Benoît XVI, l'ancien pape Benoît XVI. Il disait, chers frères et sœurs, nous avons tous besoin de lumière intérieure pour surmonter les épreuves de la vie. Nous avons tous besoin de lumière intérieure pour surmonter les épreuves de la vie. Et c'est important de le demander au début de ce carême. Vous voyez, alors, oui, il y a, bien sûr, hein, je suis catholique, hein, il y a les sacrements, il y a... Mais il faut le demander, ça. De fait, les dons que Dieu nous accorde d'une manière particulière. Il ne faut pas avoir peur de le demander. Voilà. Comment est-ce que je prends les moyens d'écouter le Fils ? Comment je prends les moyens de voir ? C'est pas accordé tout le temps, c'est pas accordé à tous, et quand c'est accordé, généralement, c'est pas accordé pour longtemps. Mais il ne faut pas qu'on se laisse voler ça. On en a besoin. Je vous lis un autre extrait du pape, il disait ça. Lorsqu'on a la grâce de faire une profonde expérience de Dieu, c'est comme si l'on vivait quelque chose d'analogue à ce qui eut lieu pour les disciples au cours de la transfiguration. Pendant quelques instants, l'on a un avant-goût de ce qui constituera la béatitude du paradis. Il s'agit en général de brèves expériences que Dieu concède parfois, en particulier en vue d'épreuves difficiles. Toutefois, il n'est donné à personne de vivre sur le Tabor tant que l'on se trouve sur cette terre. Voilà, prenons soin de ces moments-là. Quand ça nous a été donné, il faut y revenir, il faut faire mémoire. Je vous ai déjà raconté Madame Schwetzin qui tenait un salon à Paris et qui toute sa vie a reçu les figures de l'intelligence chrétienne et qui a œuvré pour que la foi se répande et qui avait un mari incroyant et qui était souvent sur la brèche, quoi. Et elle avait noté dans son carnet « Toute ma vie de foi ne dépend que d'un moment où j'ai fait l'expérience de Dieu. » Toute ma vie de foi ne dépend que de cet instant où j'ai eu l'expérience de Dieu. Et ça, faut pas avoir peur, ça fait partie vraiment des grâces particulières que Dieu nous accorde. Et Dieu donne les grâces particulières. Alors je sais bien, quand on est dans l'épreuve, on se dit toujours « Ben non, là, il me donne pas les grâces. Je le sens pas, là, j'ai vraiment l'impression d'être tout seul. » Et c'est généralement quand on se retourne qu'on se dit, bah oui, en fait, Dieu était là. Et quand on en a qui nous sont accordés, bah il faut pas les gaspiller. Voilà, il faut y revenir. Donc ça, c'est le premier aspect de la transfiguration, c'est la vision. Ils ont vu. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que pendant cette vision, ils ont surtout entendu, en fait. Et c'est ce que dit la voix du Père. Le Père leur dit pas « regardez », il leur dit « écoutez ». Parce qu'en fait, la vision, c'est pas quelque chose que l'on peut décider. La vision, c'est donné. Voilà, il y a un moment, parfois dans notre vie, il y a des choses on nous donne de voir. En revanche, l'écoute, c'est le grand commandement, c'est ce qu'a vécu la Vierge Marie. Hein. Elle méditait ces choses dans son cœur, ce qu'elle avait entendu. Et c'est cette écoute que nous, on doit mettre en place, et c'est ce que l'on a demandé au début de cette messe. Je vous relis la collecte. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Donc c'est en écoutant qu'on peut aussi se disposer à voir ce dont nous avons besoin. Alors comment est-ce qu'on écoute ? Bon, bah dans la tradition, c'est toujours pareil. Hein. Il y a quelques lieux privilégiés pour l'écoute de la parole de Dieu. Le premier lieu qu'il ne faut jamais oublier et sur lequel il ne faut pas passer trop vite, c'est le réel, c'est le concret, c'est ce qui fait notre quotidien. Parce que nous sommes des monothéistes et nous croyons que Dieu a créé le ciel et la terre et que tout est dans sa main. Et donc les événements ne sont pas d'abord le fruit du hasard, même si le hasard existe, ils ne sont pas le fruit d'un équilibre entre le bien et le mal, les événements sont dans la main de Dieu. Et les événements nous disent donc quelque chose de la volonté de Dieu. Alors bien sûr il y a la question du mal, bien sûr il y a... Mais pourquoi cette épreuve ? Nous croyons que nous sommes dans la main de Dieu. Les événements nous disent quelque chose. De même que cette catégorie très spéciale d'événements que sont les rencontres. C'est pas pour rien qu'on rencontre des personnes dans notre vie et que parfois il y a des personnes clés qui arrivent à un moment clé. Ce sont des dons de Dieu et ça fait partie de l'écoute que l'on doit développer pour entendre la parole de Dieu. Le deuxième lieu après les événements, c'est bien sûr la parole de Dieu. La parole de Dieu qui ne peut jamais être lue indépendamment de la tradition. Cette parole, nous ne sommes pas des musulmans, elle n'est pas tombée directement du ciel. Elle est issue d'une histoire, elle est issue d'une compréhension, et donc elle se lie en lien avec cette histoire et cette compréhension. Donc la parole de Dieu, avec la tradition et le magistère. Ensuite, il y a bien sûr aussi la prière. On écoute la voix de Dieu à travers la prière. Et puis ensuite, il y a ce que Dieu nous donne directement. Donc, vous avez la vie théologale, hein, foi, espérance, charité. Et puis, vous avez la pratique des sacrements. On reçoit, non seulement on l'écoute, mais on reçoit réellement le Christ à la messe, on reçoit sa personne, donc on reçoit celui qui parle, on reçoit le Verbe. Et puis dans la confession, pas forcément tellement à travers ce que dit le prêtre, bon, bah parfois le prêtre il peut être inspiré, mais surtout dans cette formule d'absolution, on reçoit la parole de Dieu qui vient nous libérer, pardonner nos péchés. Voilà, soyons bien attentifs à ces deux dimensions dans ce carême. La vision et l'écoute. On n'a pas beaucoup de prise sur la première, on a un petit peu plus de prise sur la seconde, mais c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place. Je vous rappelle que les trois axes du carême, c'est quand même l'aumône, le jeûne et la prière. Eh bien, ces deux éléments-là rentrent parfaitement dans le troisième axe.